Il est 19h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Le grand thème de la campagne présidentielle et surtout grande préoccupation de tous les Français, c'est le pouvoir d'achat des manifestations dans toute la France aujourd'hui.
Retour sur le défilé parisien et reportage sur ces frontaliers qui traversent la frontière allemande pour faire des économies. Qui est le meilleur candidat pour représenter la gauche à la présidentielle? Près de 467 000 inscrits se prononcent, votent en ligne depuis ce matin et jusqu'à dimanche. Dans ce journal, on vous emmène visiter l'unique centre spécialisé dans l'accueil des policiers suicidaires. Et puis l'adieu à une gueule d'ange, Gaspard Ulliel, il avait 37 ans.
La tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Pousse gris sur les trois quarts du pays, avec quand même quelques éclaircies en journée. Un quart sud-est reste au soleil, le Mistral s'époumonne et les températures remontent un peu. On fait le point à la fin du journal. Europe 1.
Prix trop élevé, salaire trop bas, ce jeudi était donc une journée de mobilisation dans toute la France.
Oui, 170 rassemblements à l'appel de quatre syndicats pour défendre le pouvoir d'achat des enseignants, des soignants, des retraités, des étudiants. Nina Droff suivait la manifestation parisienne pour Europe 1 dans une ambiance plutôt bon enfant.
Objectif aujourd'hui, demander d'une même voix une hausse des salaires. Dans la foule, Marie agite son drapeau rose. Pour cette agente de la finance publique, cette augmentation est une nécessité absolue.
En tant que fonctionnaire, depuis 10 ans, on a perdu 20% de pouvoir d'achat. Les salaires, ils suivent plus du tout. Les fins de mois sur Paris, quand vous gagnez, c'est à peine plus que le SMIC, c'est compliqué. Ouais.
Derrière sa pancarte « École en colère », Nicolas, professeur de physique, acquiesce. Pour lui, c'est avant tout une question de valorisation du travail.
Je ne suis pas sur la paille, mais j'aimerais plus de reconnaissance.
Les salariés du privé se sont également joints à la mobilisation. Annie et Laura travaillent dans la restauration et ont du mal à joindre les deux bouts.
Bah, c'est des salaires de misère. Un salarié gagne le SMIC dans la restauration.
Notre métier n'est pas reconnu avec un statut, un salaire assez indigne. Condition de travail ridicule.
Elles sont d'ailleurs prêtes à manifester à nouveau dans les prochains jours pour faire valoir leurs droits.
Nina Droff, les organisateurs de cette mobilisation décideront d'ailleurs demain matin de la suite du mouvement.
Et Europe 1 consacre justement cette journée au pouvoir d'achat. Les Français tentent de trouver toutes sortes d'astuces pour économiser sur leur plein de carburant ou sur les courses.
Oui, en Alsace, le pli est d'ailleurs pris depuis longtemps. On passe la frontière pour acheter en Allemagne où de très nombreux produits sont bien moins chers. Mélina Fachin s'est rendue dans un supermarché de Kehl à quelques kilomètres de Strasbourg.
Vous voulez encore quelque chose ou pas?
Déjà, là pour les chats, la litière.
Dans ce supermarché, on entend presque autant parler allemand que français.
T'as vu la promotion?
Katia, Grégory et leur fils d'un an habitent à Strasbourg, mais cela fait des années qu'ils ne font plus leurs courses en France.
C'est vraiment beaucoup trop cher en fait. Là, vous pouvez voir, il y a le chou à 40 centimes. Introuvable chez nous.
Les fruits, les gels douches, la lessive, tout est moins cher. Pour ces jeunes parents, le rayon bébé est particulièrement intéressant.
Là, les compotes, on en a pris entre 15 et une vingtaine. À 85 centimes, la compote ici, 1,15€ en France. Ça fait à peu près 5€ d'économiser.
Je vois pas pourquoi j'irais chez nous en France acheter, en fait.
Surtout en ce moment.
On a l'impression que tout augmente. Hein. Quand on voit le diesel, il était à 1,40, il passe à 1,60. L'énergie, le gaz, c'est pour ça que toute petite économie est bonne à prendre. Hein.
Et au passage en caisse, il n'y a pas photo.
Là, on a une facture de 135€. Je pense que chez nous, on serait bien.
Aux alentours de 160 en France et en 135 ici en Allemagne. Donc c'est sûr que ça fait quand même plaisir au portefeuille.
Et même si les prix ont aussi augmenté ces derniers mois en Allemagne, notamment le carburant désormais aussi cher qu'en France, la petite famille reste gagnante. Quelle Mélina Fachin, Europe 1.
Des prix bas, d'accord, mais jusqu'à quel point? C'est toute la question, surtout depuis que les supermarchés Leclerc ont lancé leur baguette à 29 centimes. Si Lidl s'est aligné, d'autres refusent absolument de le faire, comme le président de Système U, Dominique Schelcher.
Ma réponse est très simple, Système U ne suit pas le mouvement qui a été lancé par mon concurrent, parce qu'avec un prix trop bas, c'est la vie de nos agriculteurs qu'on brade. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Bien sûr, on a notre rôle à jouer par rapport aux consommateurs et on le fait. En même temps, de plus en plus de consommateurs ont en tête que le produit qu'ils achètent, il y a un agriculteur derrière et on doit respecter aussi le travail de cet agriculteur, le rémunérer au juste prix. Alors c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est équitable et juste pour tous les acteurs de la chaîne.
Le président de Système U, invité de Romain Des Arbres tout à l'heure dans Europe Midi.
Le pouvoir d'achat au cœur du programme des candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Fabien Roussel étaient d'ailleurs dans le cortège parisien.
Anne Hidalgo, elle, était en Mayenne. Christiane Taubira donne son premier meeting ce soir à Bordeaux et tous ces candidats de gauche doivent en théorie se départager grâce à la primaire populaire qui s'est ouverte ce matin. 467 000 inscrits, ce n'est pas rien, Alexis de la Fontaine.
Oui, c'est même la plus grosse primaire de cette présidentielle, 3 fois plus que celle des Républicains en décembre et 4 fois plus de celle des écologistes à l'automne. Et pour l'instant, c'est un bon démarrage, 67 000 votants en 4 heures, soit 15% de participation. Officiellement, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ne reconnaissent pas la légitimité de cette primaire, mais en coulisses, chacun mobilise ses troupes pour essayer de la remporter. Tous sont conscients qu'aucune candidature ne sera éliminée en cas de défaite, mais tous ont une certitude, le gagnant enclenchera une dynamite de campagne. Seul Christiane Taubira soutient l'initiative. Devant l'impossible union de la gauche, elle adresse un message aux participants de la primaire.
La primaire populaire s'avère aujourd'hui le dernier espace où cette union est possible, où elle peut être construite. Vous êtes nombreux, votre exigence est claire et moi c'est très volontiers que je me soumets à votre verdict.
Pour le verdict, rendez-vous dimanche à 19h.
Alexis de la Fontaine est du côté de la majorité présidentielle. Le site de campagne est en ligne, baptisé avecvous2022.fr. Il propose aux internautes de faire entendre leur voix sur un sujet qui les touche, qu'ils aimeraient voir au cœur du débat public. En tout cas, le site ne mentionne ni La République En Marche, ni Emmanuel Macron.
On fait une petite pause, Hélène, et puis on va parler de ce fléau, le suicide des policiers. Un 10e suicide s'est produit aujourd'hui depuis le début de l'année. Tout de suite, dans Punchline sur Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans la suite du journal de 19h avec Hélène Zellani. Hélène, selon les informations d'Europe 1, la police enregistre un 10e suicide aujourd'hui depuis le début de l'année.
Oui, un technicien de l'hôtel de police de Rennes s'est jeté dans le vide ce matin. 10e décès en moins d'un mois. Triste record pour la police nationale qui tente de lutter contre ce mal-être grandissant. Burn-out, dépression, problèmes d'addiction. Une 50aine de patients sont suivis au château du Courbat près de Tours. C'est le seul centre de santé créé par des policiers. Pour des policiers, William Molinier a pu le visiter en exclusivité pour Europe 1.
Des pancartes jalonnent la petite route forestière qui mène aux 82 hectares de ce château pas comme les autres. Ne rien lâcher ou encore « On est ensemble », peut-on lire dans la contre-allée. Delphine Gaillot, elle-même policière, accompagne ses collègues.
Le mot qui revient souvent, c'est le mot « souffrance », qui est différente en fonction du parcours de vie, l'histoire professionnelle, personnelle, des incidents de la vie assez importants.
Au sous-sol, la salle de sport est un outil thérapeutique, tout comme la nature et les étangs. Dans le parc, le docteur Niado Kao s'intéresse aux failles de l'homme sous l'uniforme du policier.
Chaque patient est un être humain, donc il faut oublier l'uniforme et se concentrer sur la personne. On ne dit plus picoler, c'est pas bien, non, on essaie de comprendre.
Dans les services de police, demander de l'aide est souvent perçu comme une fragilité. Il faut changer cette perception, explique Stéphane Liévin, secrétaire général de l'Association nationale d'action sociale qui gère le centre.
Nous, on en appelle, l'ANAS, aujourd'hui, à une véritable création d'une culture du débriefing et du defusing pour qu'à chaque fois qu'un policier en service rencontre une situation traumatique, il puisse justement en parler.
Selon nos informations, des discussions sont en cours au sein du ministère de l'Intérieur pour appliquer une méthode de prise en charge immédiate, une sorte de gilet pare-balles émotionnel. Le Liège, William Molinier, Europe 1.
Voilà, et la vague de suicides dans la police, on y revient largement juste après ce journal dans Punchline avec des témoignages de policiers.
Un enfant de 10 ans retrouvé mort dans une valise à Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne. Il était porté disparu depuis hier avec sa mère de 33 ans qui est activement recherchée.
Et puis une porte ouverte au dialogue pour l'instant entre la Russie et les États-Unis sur la crise ukrainienne.
Oui, Moscou accueille froidement le rejet américain de ses exigences, mais la porte n'est pas fermée. À Kiev, les associations humanitaires qui apportent déjà de l'aide sur le front de la région du Donbass se préparent à une éventuelle intervention russe au cas où. Écoutez le reportage de Marion Gauthier, l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Ukraine.
Deux femmes, quelques mètres carrés, un petit bureau défraîchi où l'association reçoit des dons, organise l'envoi de médicaments ou de véhicules pour transporter les blessés, avec à l'esprit depuis quelques mois qu'on cède Victoria la possibilité d'une attaque russe.
La menace est permanente. Nous continuons notre travail comme nous en avons l'habitude. Nous accordons une attention particulière à réunir ce dont nous pourrions avoir besoin en cas de conflit. Nous ne sommes pas indifférentes, mais nous sommes calmes et prêtes.
L'énergique quinquagénaire ne compte plus ses passages au front. Depuis le lancement de son association en 2014, 8 ans de guerre ont passé. Le petit groupe de 5 bénévoles coordonne maintenant des aides venues du monde entier, glisse Olena, la soixantaine pétillante.
Ça fait tellement longtemps que nous venons en aide aux soldats. Au début, nous manquions de tout. Nous partions de rien. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée.
Nous faisons ça parce que nous défendons notre pays. Et nous voyons que de petites personnes peuvent accomplir de grandes choses.
Les deux bénévoles placent leur espoir dans leur armée plus que dans leur gouvernement, précise-t-elle. Mais leurs regards sont tournés vers l'ouest ces jours-ci, attentifs à la mobilisation de la communauté internationale. Kiev, Marion Gauthier, Europe 1.
Joe Biden confirme qu'il va nommer pour la première fois une femme noire à la Cour suprême. C'était une promesse de campagne du président américain. Plus de masques à l'intérieur ni de passe sanitaire. L'Angleterre a abandonné aujourd'hui la quasi-totalité des restrictions anti-Covid qui étaient encore mises en œuvre.
Sa famille, ses amis, le monde du cinéma, tous étaient venus rendre un dernier hommage à Gaspard Ulliel, décédé la semaine dernière dans un accident de ski.
Oui, la cérémonie religieuse se tenait tout à l'heure en l'église Saint-Eustache à Paris. Marie Jiquel, son cercueil noir, est entré dans l'édifice sous les applaudissements.
Oui, et à l'intérieur, toute la famille du cinéma français, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Pierre Ninet, Vincent Cassel et son ami Jérémy Régnier, son compagnon Pierre Berger dans le film Saint-Laurent. Jérémy Régnier qui a porté le cercueil avec cet autre proche. Une cérémonie simple, beaucoup de mots tendres adressés à Orso, son petit garçon de 6 ans. Frédéric, l'un des amis de l'acteur, a été marqué par la sobriété de cet adieu.
C'était très représentatif de lui, d'une simplicité et une bienveillance. Ce qui m'a énormément touché, c'est son fils qui est arrivé avec sa mère pour allumer les cierges. Ça a été très fort, très très fort. Cercueil noir laqué, d'une simplicité.
Sur le parvis, plusieurs centaines de personnes se recueillent face à la grande photo en noir et blanc de Gaspard Ulliel, magnétique, cigarette à la bouche. Ses passants, livrés de messe à la main, sont encore choqués par sa disparition, comme Sophie.
Son décès m'a choqué, m'a beaucoup frappé. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Moins son jeu d'acteur, pour être honnête, plus sa personnalité qui m'avait frappé déjà quand j'étais très jeune. Et j'avais remarqué sa sensibilité, son regard intense. Il y avait quelque chose en lui qui me touchait.
À la sortie du cercueil, de longs applaudissements. Quelques Gaspard criés, hein, vous l'entendez. Gaspard Ulliel a ensuite été inhumé au cimetière du Père-Lachaise dans l'intimité.
Marie Jiquel. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de René de Obaldia, poète, écrivain, doyen de l'Académie française. Il avait 103 ans.
La météo, Marlène Duret, demain, il fera un peu moins froid.
Oui, on va le sentir, notamment dans les régions centrales par rapport à ces derniers jours. Quelques températures encore négatives demain matin, du nord-est en allant vers les régions méridionales. Des gelées un peu plus sévères en montagne, évidemment. Quant au maximal en journée, eh bien, elles afficheront entre 7 et 11 degrés près de la Manche et de l'Atlantique. Comptez 13 à 17 près de la Méditerranée. Et puis entre 4 et 8 degrés partout ailleurs. Alors à Paris, on ne verra pas la différence. 8 degrés aujourd'hui comme demain. Mais par exemple, du côté Strasbourg, on passera de 3 aujourd'hui à 7 degrés demain. Et puis on gagnera 3 degrés à Bourges et à Bordeaux, on devrait en gagner 6. On a été marqué aujourd'hui par une perturbation qui a donné quelques gouttes. Alors attention quand même, ça va verglacer ce soir en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Dans la nuit aussi, des bruines verglaçantes vont toucher la Bourgogne-Franche-Comté. Quant à la journée de demain, eh bien, ça commence par du gris sur les trois quarts du pays. Encore attention au phénomène glissant dans le sud de la Bourgogne. Quelques éclaircies devraient percer au fil des heures. Et puis regardons là plutôt où il fera beau, hein, les Pyrénées et leur Piémont. Et puis aussi du Limousin en allant vers les régions méditerranéennes, en passant par une partie de l'Auvergne et le sud de Rhône-Alpes. Et puis on va dire un dernier mot sur le vent. Ça va souffler fort. Le Mistral pourrait souffler jusqu'à 100-110 km à l'heure en basse vallée du Rhône.
Merci beaucoup Marlène Duret pour cette météo. Merci Hélène Zelani pour le journal. Dans un instant, la suite des débats de Punchline. On évoquera ces suicides de policiers avec des témoignages de certains policiers qui prennent en charge la souffrance de leurs collègues. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.